Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Mercredi 6 juillet, bienvenue à Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet avec vous pour la prochaine heure. Encore une fois, une journée forte en actualité, hein, même si on est en plein milieu de l'été, là, au mois de juillet. Habituellement, ça se calme, mais là, il y a beaucoup de nouvelles qui nous parviennent un peu partout. L'une de ces premières, c'est que le directeur national de santé publique, Luc Boileau, va prendre la parole ce matin à 10h, donc tout juste après mon émission, pour présenter une étude de la situation concernant la santé environnementale à Rouyn-Noranda. On le sait, les émissions d'arsenic de la fonderie Horn, qui est une propriété là, de Glencore, préoccupent beaucoup les citoyens, les experts de santé publique, les médecins, les chimistes, les oppositions à Québec. Et là, on aura une réaction donc du docteur Luc Boileau. Il va falloir voir et entendre là, ce qui va ressortir de ce point de presse-là. Mais c'est devenu dans les derniers jours vraiment le focus de l'attention de la santé publique ici au Québec. Faut le dire, là, une espèce d'agent comme ça qu'on retrouverait dans l'air. Ça préoccupe beaucoup un ennemi invisible. C'est stressant. Vous le savez, on vient de combattre 2 ans et demi de pandémie de COVID-19. C'est beaucoup plus compliqué de combattre ce qu'on ne peut pas voir. Une autre nouvelle sur le plan politique, celle-ci, de la politique fédérale, plus précisément dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Le candidat à la chefferie, Patrick Brown, a été exclu tard hier soir de la course au leadership. Ça a été annoncé par la campagne, par le comité gérant de la course à la chefferie, entre autres. On dit qu'il a été disqualifié en raison de sérieuses allégations d'actes répréhensibles. Donc, on dit que ça semblerait violer les règles qui régissent les dispositions financières de la loi électorale du Canada. C'est même le directeur général des élections du Canada qui a avisé la campagne de M. Brown de ces allégations-là. Et donc, il est disqualifié pour le moment. Il faudra voir s'il y aura un renversement de situation qui lui permettra de revenir, mais pour l'instant, il semble bel et bien disqualifié. Il ne reste donc plus que 5 candidats dans la course. La campagne de M. Poilievre, celle de M. Charest, il y a également Leslie Lewis, Scott Hutchinson et Roman Barber qui sont toujours dans la course. Et parmi là, ceux qui sont considérés comme dans les candidats favoris, bien, il y a Jean Charest. Et pour en parler, on va discuter tout de suite avec Mme Tasha Carradine, qui est, oui, chroniqueuse au National Post, on l'a déjà reçue souvent ici à Cube Radio, mais également la coprésidente de la campagne de Jean Charest à la chefferie conservatrice. Madame Carradine, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, là, Madame Carradine, là, vous qui connaissez là, beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que nos auditeurs, là, des courses à la chefferie comme ça, comment ça s'organise, c'est quoi les règles financières là, qui gèrent une campagne comme ça? Qu'est-ce qu'il faut respecter comme balise dans une campagne? Parce qu'on ne peut pas s'avancer, évidemment, sur les allégations directes qui visent M. Brown, mais juste comprendre un peu de quel ordre d'idée, qu'est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on récolte du financement dans une course à la chefferie comme ça?
Bien, c'est ça. Je ne veux pas spéculer, là, parce qu'un des gros problèmes dans la situation, tu l'as dit bien, c'est qu'on ne sait pas les allégations exactes contre M. Brown. Le comité du parti n'a pas été transparent sur cet égard. On attend toujours à savoir c'est quoi, parce qu'on ne veut pas, spéculer, dire qu'est-ce qui aurait pu se passer. Dans le sens des règlements, c'est sûr que un candidat doit respecter les limites de Élections Canada, c'est-à-dire tu ne peux pas recevoir plus que 1 675 $ par membre de don. Tu ne peux pas recevoir des dons de corporations, ça doit être des dons d'individus. Tu dois aussi, quand les gens achètent des memberships, ça doit être leur argent personnel qui doit être versé. Tu ne peux pas payer pour des memberships, pour des abonnements pour des membres en bloc ou en groupe, ça doit être individuel. Alors ça, c'est des règlements de base et tous les candidats les connaissent, là, c'est pas compliqué. Le fait que Élections Canada se soit mêlé de cette affaire-là, je trouve ça, c'est un peu troublant. On ne sait pas pourquoi ils se sont ingérés dans la situation. Mais comme j'ai dit, la grosse question, c'est pour le parti d'être transparent et nous dire qu'est-ce que c'est quoi exactement M. Brown est accusé.
Oui, on se rappellera que M. Brown a affirmé lui avoir recruté le plus de 150 000 nouveaux membres là, pour le Parti conservateur du Canada au printemps dernier. C'était le deuxième plus grand nombre après Pierre Poilievre qui lui annonçait le recrutement de plus de 300 000 membres. Concrètement, là, Mme Carradine, pour la campagne de Jean Charest, dont je rappelle, là, vous êtes la coprésidente, qu'est-ce que ça change, la disqualification comme ça de M. Brown? Est-ce que c'est des votes que vous allez tenter d'aller récupérer qui peuvent être les bienvenus? Vous pensez que ces gens-là vont s'abstenir, ceux qui voulaient voter pour M. Brown, ou encore, peut-être de manière plus étonnante, qu'ils vont aller rejoindre la campagne de M. Poilievre. Qu'est-ce que ça change pour vous?
Bien, on continue à faire la campagne de persuasion qu'on avait déjà commencée et sortir le vote qu'on connaît, notre vote. C'est sûr que ces individus-là vont avoir des décisions à prendre si M. Brown est complètement écarté, parce que lui va faire un appel de la situation.
Ouais.
Alors, on ne sait pas la décision finale. Et c'est ça qui est le plus troublant aussi, parce que ce que ça fait, c'est potentiellement, ça fait un délai dans la situation, parce que on comprend que des ballots en français, je perds mon français.
Pas tout seul.
Les bulletins de vote, il y a certains qui ont été sortis, on me dit, alors avec son nom là-dessus. Alors ce matin, c'est la décision, est-ce qu'il va être sur le bulletin de vote ou non? Cette décision-là va être prise par le parti. Après qu'on connaît plus de faits comme ça, on va avoir plus d'une idée que comment ça impacte notre campagne, parce que c'est sûr, si ces gens-là ne puissent pas voter ou si ces membres ne sont pas permis de voter, ça change la donne. Mais pour le moment, on continue à faire notre persuasion et c'est sûr que sur le plan d'idées et d'autres choses, il y a des affinités. On est tous des candidats de centre-droite. Alors, il y a des membres de qui s'appuyaient à M. Brown, qui nous choisissaient comme un deuxième choix ou qui pencheraient vers notre campagne. C'est à eux de décider ces choses-là. Mais c'est sûr que ce que ça change pour toutes les campagnes, y compris la nôtre, c'est que si cette décision-là n'est pas bien expliquée au public et aux membres, ça va ternir le parti.
Ouais.
Et ça va peut-être décourager des gens en général de voter ou même de voter aux prochaines élections. Alors, c'est vraiment au comité du parti d'être transparent sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'on demande. C'est comment et pourquoi cette décision a été prise.
Oui, parce que c'est à l'avantage du Parti conservateur en général d'être transparent selon vous. Vous parlez de poursuivre votre campagne de persuasion, comme vous le dites. Cette disqualification-là de Patrick Brown, je vous avoue, c'est un des plus récents éléments, disons, qui vient pimenter la course à la chefferie. Ça s'est fait plus tranquille dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Il y a un dernier droit encore à faire jusque, je le rappelle, l'intention du parti de nommer un nouveau chef le 10 septembre prochain. Il y a encore du chemin à faire. On est en plein milieu de l'été. On sent peut-être un essoufflement. Il y a d'autres nouvelles qui s'accaparent dans l'actualité. Comment est-ce que vous allez faire pour garder l'intensité dans la course et garder les gens, les électeurs, mais les observateurs aussi attentifs puis intéressés à la course?
Ben, je pense il y a ça manque pas de piquant dans la course, on pourrait dire, de cet été, y compris cette journée. Mais je pense que non. Écoute, M. Charest rejoint des électeurs et des membres de façon différente. Il les rencontre dans des campagnes de téléphone, des town halls, comme on dit, où on rassemble beaucoup de gens au téléphone, puis ils parlent à ce monde-là. Il va partout au pays, là. Il était à Calgary, il est retourné au Québec, maintenant il retourne en Alberta pour le Stampede. Il va être là la semaine pour, je pense, 4 jours, puis ensuite il va continuer à traverser le pays, rencontrer les gens face à face. C'est la meilleure chose à faire. On sait tous que quand tu rencontres un candidat et quand tu rencontres Jean Charest, c'est sûr, son entre-gens est tellement bon, les gens sont prêts à l'écouter. Alors, c'est vraiment notre stratégie. Puis, de plus, tous les coprésidents comme moi, on prend le téléphone, puis on parle aux gens, puis on leur explique notre campagne, nos politiques surtout, et pourquoi il est le meilleur chef pour unir le parti. Alors, moi, je suis convaincue que d'ici le 10 septembre, ça va être une victoire pour M. Charest, mais c'est pas un travail facile. Il faut faire le travail de terrain, et c'est ce qu'on fait.
Oui, allez-vous être un peu plus agressif, un peu plus à l'offensive pour le reste de la campagne? Précisément, évidemment, j'ai en tête M. Poilievre, qui est le principal concurrent devant vous, parce que Jean Charest a pris des positions là, sur des questions épineuses qui reviennent beaucoup dans l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir l'annulation de Roe versus Wade aux États-Unis, les questions sur l'avortement qui reviennent. M. Charest a pris position là de manière pro-choix dernièrement. Ce que M. Poilievre se refuse à faire, là. Il parle d'un côté comme de l'autre depuis le début, là. Son discours change d'un endroit à un autre. Allez-vous vous montrer plus agressif? Allez-vous marteler, exiger qu'il y ait des réponses claires de la part de M. Poilievre d'ici la fin de la campagne? Parce que pour l'instant, il est évasif depuis des semaines et personne semble talonner plus qu'il faut là-dessus.
Ben, on le talonne. On peut pas le forcer de répondre, mais c'est sûr que oui, on talonne puis on demande ça. Puis je pense aux membres aussi, on leur demande de réfléchir à cette question-là. Est-ce qu'ils ont des réponses claires de tous les candidats, y compris M. Poilievre? Le débat qui s'en vient à Calgary, M. Poilievre a dit qu'il va pas se pointer là. Ça, je trouve déjà, ça manque de transparence de son côté parce que justement, il y a à répondre à ces questions-là. C'est dans les têtes des électeurs. Où est-ce que tu te situes? Et la question de l'authenticité, le fait que tu sais sur quoi un candidat se présente. C'est un problème pour Andrew Scheer, c'est un problème pour Erin O'Toole, ça peut pas être un problème pour le prochain chef du parti.
Ouais.
M. Charest a été super clair sur tous ses politiques. Alors, si M. Poilievre ne le fait pas, ça laisse encore des doutes, ça sème des doutes, et on peut pas avoir ces doutes-là. Il faut que les électeurs puissent se fier au chef et savoir sur quoi il se présente. Alors, on pense que oui, on va marteler ce point-là, mais on va être positif aussi. On ne croit pas à une campagne de salissage. C'est malheureux comment ça a été un peu comme ça, là, mais on espère que c'est moins sale d'ici la fin de la course.
Ouais, ça, je vous
on va voir. Aujourd'hui, c'est pas un exemple saillant, là, mais...
Non, c'est sûr. on se comprend là-dessus. Madame Carradine, je voulais vous poser une question, là, justement. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure, là. Vous avez un livre qui est sorti récemment, là, The Right Path. Évidemment, le droit chemin ou le droit droite.
Droit chemin, c'est
droite
ça.
Chemin, on pourrait dire ça comme ça en français. Qui parle, entre autres, de la nécessité d'avoir un parti conservateur, de son utilité de nos jours. Je vous avoue, moi, j'ai 26 ans, Madame Carradine. Je connais pas beaucoup, puis peut-être que c'est mon milieu à moi qui fait défaut, mais je connais pas personnellement beaucoup de gens qui, de mon âge, qui semblent avoir des affinités avec le Parti conservateur, la course à la chefferie, mais règle générale, Parti conservateur, fédéral, parce qu'il y a des enjeux qui sont encore flous. On a parlé, oui, de l'avortement. M. Charest est clair là-dessus. Ça va. Mais il y a le dossier de l'environnement. M. Charest a un bon bilan vert, somme toute, quand on prend là, sa longue carrière politique. Mais du côté du Parti conservateur, je rappelle, en mars 2021, là, les membres du parti ont rejeté à 54% une motion qui visait seulement à endosser le fait que les changements climatiques existent, à reconnaître leur existence. Donc, à plus de 54%, plus de la moitié. Et ça, c'est quelque chose qui garde encore une étiquette climato-sceptique en 2022 sur un parti fédéral d'un des pays du G7. Et ça semble être une aberration, vraiment, de ne pas être capable de s'entendre sur le fait que les changements climatiques existent en 2022. Si Jean Charest est élu, est-ce qu'il va être capable de retourner le navire de côté puis d'être capable de rallier les membres derrière lui avec cette motion-là?
Moi, je pense que oui. Écoute, M. Charest, ses politiques sur l'environnement et l'énergie étaient très claires. Il veut réconcilier les deux, aussi avec le développement économique, et c'est possible. On peut faire l'exploitation responsable de du pétrole et des ressources fossiles, mais en même temps, se tourner vers un plan très vert, c'est-à-dire l'électrification, les minéraux critiques, l'exploitation de ces ressources-là, qui permettraient non seulement au Canada, mais le monde entier de se tourner vers un avenir énergétique plus vert et plus sain.
Ouais.
Alors, il opère à ces deux vitesses-là. Il n'écarte pas l'un pour l'autre. Il dit qu'il faut poursuivre les deux. Moi, je suis convaincue que comme ça, et je pense que c'est la bonne voie à prendre. Et je dis dans mon livre aussi, c'est pas juste lui qui le dit, là. Doug Ford, ici en Ontario, dit la même chose. Les conservateurs sont sur ce point-là. Il faut qu'on aille cette politique comme la nôtre. Il faut que c'est nous qui l'adoptent, qui l'avancent.
Ouais, ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Mme Carradine. Mais je sais que le programme de Jean Charest là-dessus est assez clair. Ses positions le sont. Mm-hmm. Moi, c'est plutôt les membres du Parti conservateur, les autres députés qui n'ont pas l'air de se rallier derrière cette vision-là. Encore une fois, il y a un manque d'unité qui semble apparent là, quand plus de la moitié refuse de reconnaître. Puis la dernière fois, la motion était présentée par le chef du parti, c'était M. O'Toole à l'époque, et ça n'avait pas passé, ça avait été battu. Puis je pense pas que c'est M. O'Toole qui manquait de vision en matière d'environnement, mais qu'il a pas été capable de concilier ces gens-là. Est-ce que c'est quelque chose que M. Charest, puis là je parle bien, là, pas son programme, mais d'être capable de rassembler les membres du Parti conservateur derrière cette idée-là?
Ben, avec tout le respect pour M. O'Toole, je pense que M. Charest, ses pouvoirs de persuasion et d'unité sont très au-delà, c'est sans pair, effectivement, dans le monde politique. S'il y a quelqu'un qui peut unifier, qui peut rallier et convaincre ces gens-là que c'est pas seulement nécessaire du point de vue, je dirais, moral, politique, mais pratique aussi pour le parti, on va jamais gagner une élection sans une politique environnementale qui a du bon sens. Je pense que c'est Jean Charest. Alors moi, j'ai la confiance qu'il pourrait rallier le caucus. Et je pense qu'en ralliant, comme j'ai dit, sur les questions, le respect à la fois des énergies fossiles, mais aussi dire il faut opérer à ces deux vitesses-là, puis s'avancer vers le vert aussi. Je pense que là, il peut embarquer le monde. Et il y a un passé là-dedans avec le plan Nord et autre chose. Et c'est montré que est en faveur de ce développement-là, je pense que les gens vont être ouverts à son discours et je pense que ces pouvoirs de persuasion personnelle aussi, qui sont très, très forts, on les a vus dans le passé avec le référendum, etc. Je pense que, oui, c'est un politicien de taille qui peut, je pense, rallier le monde de façon que les autres chefs conservateurs depuis M. Harper n'ont pas pu faire.
Oui, M. Charest a beaucoup de détracteurs, mais je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est vrai que c'est une bête politique avec beaucoup d'expérience. Et on verra pour le reste de la campagne si son pouvoir de persuasion, comme vous l'appelez si bien, va faire effet dans le reste de la course. Madame Carradine, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement, mais reparlons-nous plus tard cet été, au fur et à mesure où la course va avancer, où on aura plus de détails sur M. Brown. Et donc, je rappelle, Patrick Brown exclu de la course à la chefferie. Il ne reste que 5 candidats, dont M. Charest et Mme Tasha Carradine et sa coprésidente de campagne. Mme Carradine, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, c'était un plaisir.
Au revoir.
Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Cube Radio.
Je vais inviter tous nos auditeurs à s'enjoindre dans une prière silencieuse pour que Mathieu Boulay, notre chroniqueur sport habituel, ne perde pas ses bagages à l'aéroport parce qu'il est en train de revenir de Wimbledon et ne sera donc pas là aujourd'hui avec nous. Par contre, c'est Jessica Lapinski, qui est journaliste sportive également, mais chef de pupitre aussi au Journal de Québec, qui est avec nous. Jessica, bonjour.
Bonjour Alexandre.
C'est un plaisir, écoute, de te recevoir à l'émission et de t'avoir des nôtres. Un premier sujet super intéressant sur lequel tu voulais nous amener ce matin, c'est qu'il y a une toute première personne noire à avoir été embauchée comme directeur général dans la LNH, donc dans la Ligue nationale de hockey, du côté des Sharks de San Jose, c'est Mike Greer. Je t'avoue, je le connais pas beaucoup. Je sais qu'il a déjà été joueur à un certain point, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur M. Greer?
Mike Greer, en fait, Alexandre, c'est ça, il a joué à peu près 300 matchs dans la Ligue nationale, notamment avec les Sharks de San Jose au milieu des années 2000. C'est pas un grand joueur de hockey, là. Il a fait plusieurs équipes, là. Mais après sa retraite, lui, c'est dans le fond, il s'est concentré là, du côté plus management, côté dépistage, c'est ça, il a été recruteur, il a été assistant entraîneur avec les Devils du New Jersey, donc il a un peu fait ses classes comme ça, là, tu sais, de l'autre côté du hockey. Donc, jusqu'à être nommé hier directeur général des Sharks, là, clairement une organisation qu'il connaît bien parce qu'il a déjà joué pour eux.
Oui. Et donc, c'est quand même impressionnant parce que là, on parle vraiment d'un DG, le directeur général. Mm-hmm. C'est un énorme poste. Puis là, il vit une première comme ça. Mais il va avoir aussi beaucoup de travail sur la planche là, parce que les Sharks de San Jose, là, si je ne m'abuse, c'est pas une équipe que j'ai suivi beaucoup dans les dernières années, mais je sais que il y a quelques années, ils étaient extrêmement compétitifs. Ils ont une réputation mm-hmm. de s'effondrer, malheureusement, en série quand il y avait des grosses équipes. Là, ils ont du jeune talent. Il y a Thomas Chertl, je pense, entre autres, qui joue avec eux, qui est excellent, mais il y a une vieille garde qui s'en va. On n'ose pas, je pense, mentionner le mot reconstruction, le mot en R, on ne le prononcera pas. On ne veut pas le prononcer à Montréal non plus, là-bas, à San Jose. Mais là, il y a beaucoup de travail, donc, lui, dans son assiette pour commencer.
Exactement, puis ça commence sur les chapeaux de roue, là, parce que, bon, j'imagine qu'il y avait beaucoup de travail qui avait déjà été fait par l'organisation avant sa nomination, mais c'est le repêchage de la Ligue nationale demain. Donc, sa nomination arrive avec une courte échéance. Il y a aussi les joueurs autonomes là qui s'en viennent. Là, c'est un moment vraiment important dans la saison pour un directeur général qui, justement, on ne dira pas le mot en R, comme tu disais, là, mais qui veut ajouter des éléments importants à son équipe. Là. Donc, ouais, ça part sur les chapeaux de roue. Beaucoup de travail tout de suite pour Mike Greer. Et Mike Greer, dans sa famille, ils ont une certaine expérience là, déjà là-dedans. Son frère Chris est le directeur général des Dolphins de Miami dans la NFL. Oh. Ouais, donc peut-être qu'il... C'est sûr que c'est deux sports diamétralement opposés, mais peut-être qu'il pourrait aller chercher des conseils là aussi là de la part de son frère.
Ouais. Avant de continuer à parler du repêchage, hein, parce que ça s'en vient, tu le dis, là, à grands pas, ça va être demain, d'ailleurs, ici à Montréal. Mais il y a aussi une autre nomination intéressante, celle d'une entraîneuse adjointe dans la Ligue américaine, Jessica Campbell.
Oui, puis là aussi, c'est une première. Jamais il y avait une femme adjointe entraîneur dans le circuit qui est un peu, ben, en fait, avec les clubs écoles de la Ligue nationale. C'est chez les Firebirds de Coachella Valley, qui sont le club école du Kraken.
OK.
Ils vont là disputer leur première saison. Ils n'étaient pas en place la saison passée.
OK.
L'entraîneur là-bas, il est bien connu. Là. C'est Dan Bylsma, l'ancien notamment des Pingouins. Jessica Campbell, elle a 30 ans. C'est une Canadienne. Puis elle a roulé sa bosse pas mal, c'est une ancienne joueuse, mais après, elle a roulé sa bosse pas mal en Europe. Là. Elle a dirigé certaines équipes, et on l'avait aussi vu comme adjointe au récent championnat du monde de hockey avec l'Allemagne.
Okay.
Donc, elle, que de ce que je disais, là, elle saute à pieds joints là, dans ce défi-là, puis elle a hâte de coacher ces gars-là. Et aussi, ce qu'elle a dit qui est intéressant, c'est qu'elle a dit « je vais coacher des gars qui ont des filles, tu sais, qui sont des papas de filles ». Et tu sais, j'espère que ça va les inspirer là par la suite, peut-être à suivre mes traces là. Donc une autre première que je trouvais super intéressante à souligner.
Ben oui, puis il y en a de plus en plus de ces nominations là de femmes dans les non seulement là oui au hockey, mais il y en a également dans la NFL. Tu sais, il y a eu également une embauche là du côté du Canadien récemment. C'est vraiment ça commence. Hein. Je pense qu'il mieux vaut tard que jamais. Là. C'est un peu tard, je trouve. Encore, malheureusement, mais tout de même, tu sais, je pense que ça va pas tarder à porter ses fruits dans la NFL aussi. Puis non seulement ça, mais beaucoup de Canadiennes, de Québécoises aussi qui font des sauts là, dans ces grandes ligues-là. Vraiment, ça se développe bien ici chez nous. On peut être fiers de nos femmes qui viennent d'ici. Bon, on se repenche sur le repêchage. C'est demain. Kent Hughes qui a fait une conférence de presse pour à peu près rien dire, finalement. Hein? On n'a rien appris. Carey Price, on ne sait pas plus. Le repêchage, on hésite encore. Mais là, selon certains dépisteurs, ce serait peut-être un bluff du côté de Kent Hughes et peut-être qu'il sait depuis peut-être même longtemps qui va repêcher.
Oui. Mais premièrement, c'est à souligner quand même l'effort d'avoir fait une conférence de presse. On demandait plus de transparence à Montréal. On en a plus beaucoup plus cette fois-ci. Mais bon, on sait pas. On peut peut-être.
Un E pour effort.
Ouais. Oui, c'est ça. Exactement. Peut-être qu'effectivement, ils ont fait leur choix, mais il y a des recruteurs qui, eux, disent, ah, c'est pas vraiment possible. Là, aussi proche du repêchage, c'est un choix qui est tellement important pour l'avenir du Canadien. Détient le premier choix, c'est à Montréal. Là encore, on veut pas dire le mot en R, mais on sait que ce choix-là aura un impact là, sur la, sur l'avenir proche, mais aussi à long terme du Canadien. Donc, ce serait assez étonnant que l'état-major du Canadien n'ait pas encore pris une décision. Ils ont parlé longuement avec les principaux espoirs, dont Shane Wright. Et c'est ça ce que Pierre Cholet disait hier à l'antenne de LCN. Si vous pouvez aussi retrouver ses propos là dans le journal de Montréal et de Québec ce matin, c'est lui, c'est en plus une stratégie pour susciter un intérêt pour ce repêchage-là qui est à Montréal. Mais il tient peut-être que Ken Hughes aussi voulait se garder une porte ouverte. Là. Il reste encore un peu de temps. Là. Je veux dire, on est à peu près un peu plus de 24 heures du repêchage, mais bon, il voulait peut-être pas non plus se fermer la porte là, à une offre qu'il pourrait pas refuser pour ce choix-là là, aussi. Là. Mais bon, on n'a pas appris grand-chose, mais on a aussi un peu l'impression que c'était du bluff là, et qu'il voulait pas tout dire de sa stratégie.
Oui, mais ça, tu as raison sur une chose, en tout cas, du moins, je trouve, c'est que Ken Hughes, il est capable en ce moment de susciter de l'intérêt. Puis si les amateurs commencent à regarder ça de plus près, c'est une bonne chose, mais encore plus s'il y a d'autres DG dans la Ligue nationale de hockey qui commencent à regarder le Canadien comme un partenaire potentiel d'échange, que ce soit de joueurs, de choix. Vraiment, là, si on est capable de ramener le Canadien comme ça, là, sur une position intéressante dans le marché, c'est toujours le bienvenu. Un dernier mot en finissant, là, Jessica, sur, on en parle depuis déjà le début de la semaine parce qu'il ne cesse de faire des frasques. Nick Kyrgios, qui est l'enfant terrible du tennis, qui a craché sur un spectateur, qui s'engueule avec les arbitres, qui il ne cesse d'avoir des histoires qui sortent sur lui. Il manque de respect à tout le monde, mais en même temps, quelle bête de tennis. Mais là, il a été cité à comparaître en Australie en début août pour agression sur son ancienne petite amie.
Oui, c'est ce qu'on croit. En tout cas, ce ne sont pas tous les détails qui sont sortis. Et pour l'instant, Nick Kyrgios n'est accusé de rien. Là. Donc, selon la justice australienne, là, cette citation à comparaître-là ne veut pas dire qu'il est accusé ou quoi que ce soit, mais il est cité à comparaître. Ça tombe vraiment. Il n'y a jamais le bon moment pour ça. Et s'il a effectivement posé des gestes répréhensibles, là, il faut qu'il soit puni pour ces gestes-là. Là. Mais Nick Kyrgios, lui, voyait en ce Wimbledon-là un peu le tournoi de la rédemption. Là. Il allait là vraiment. Il y a un tennis qui est parfait pour le gazon, pour cette surface rapide-là. Il voyait qu'il y avait des joueurs importants qui n'étaient pas là en Daniil Medvedev, compte tenu de la suspension des Russes à Wimbledon. Il voyait qu'il y avait des joueurs un peu moins motivés par le fait qu'il n'y a pas de points qui sont accordés à Wimbledon. Se disait, c'est peut-être ma chance. Aujourd'hui, il joue son match de quart de finale contre Christian Garin. A la chance de se qualifier pour sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. En conférence de presse, il dit, je suis un nouvel homme maintenant. C'était une époque où mon agent devait venir me chercher dans les bars à 4 heures du matin à la veille d'un match contre Rafael Nadal. J'ai changé. Et là, ceci arrive. Il n'y a pas de bon timing dans ces histoires-là. Non. Je veux dire, s'il doit être puni, il doit être puni. Là. Mais bon, c'est une drôle de fin quand même. Si ça devait prendre fin aujourd'hui, son tournoi, c'est une fin de tournoi assez triste. Là.
Ouais, c'est certain que pour un tournoi de rédemption, aller cracher sur les spectateurs, c'était peut-être pas sa meilleure décision aussi, là, quoique, faut être honnête, là, le spectateur aussi, là, en guirlandais pendant le match, là, ça se joue à deux, cette partie-là, mais bon. À voir pour la suite pour Nick Kyrgios. Dans tous les cas, un gros merci à toi, Jessica Lapinski, qui est journaliste sportive.
Plaisir.
Chef de pupitre également au Journal de Québec. Merci d'avoir été là. On se reparle une prochaine fois.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346. Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
J'entendais des dents grincer hier, mais grincer à l'autre bout de Montréal. J'entendais ça grincer. Je pense que c'était les dents de Rémi Villemure hier, un de mes collaborateurs, avec Julia Pagé qui est là aujourd'hui, lorsqu'il a entendu Éric Duhaime dévoiler son nouveau slogan « Libre chez nous », qui fait un rappel historique que certains pourraient qualifier d'audacieux, peut-être, Rémi? Peux-tu me donner tes impressions maintenant que tes dents se sont rétablies?
Ouais, mes dents se sont rétablies. Audace, c'est pas le mot que je choisirais ce matin. Moi, je pense que, ou bien Éric Duhaime est un très mauvais témoin de l'histoire, ou bien il a vraiment décidé d'en berner certains, mais ça sera pas nous ce matin. Écoutez, c'est un slogan qui est très mal choisi. Le slogan « Maître chez nous », c'est celui du Parti libéral du Québec en 1962. Là, c'est le slogan donc qui inspire celui d'Éric Duhaime. C'est un slogan qui, soit dit en passant, a été associé à la nationalisation de l'hydroélectricité. Donc, la nationalisation, je suis même pas certain qu'Éric Duhaime l'aurait supporté en 1962 en libertarien assumé qu'il est. Ouais. Donc, déjà, première bourde théorique et symbolique pour Duhaime. Il s'inspire d'un slogan qui est nationaliste, qui va se trouver au cœur, à l'époque, de la formation d'un État-providence québécois, ce qu'il combat vigoureusement aujourd'hui. Il y a le slogan, et il y a aussi un autre passage quand même dans la conférence de presse. Il s'est beaucoup inspiré de Jean Lesage. Il se compare à un homme, en fait, à mon avis, à qui il n'arrive même pas à la cheville. Si Duhaime a peut-être du flair, ben Jean Lesage lui avait du génie. Un génie qui a fait en sorte qu'il s'est entouré de gens de qualité à l'époque. Là. Je veux dire, les cabinets de Jean Lesage en 60 et en 62, c'est René Lévesque, c'est Paul Gérin-Lajoie notamment. C'est qui les René Lévesque et les Paul Gérin-Lajoie d'Éric Duhaime? C'est pas un détail, là. Je veux dire, aujourd'hui, le Parti conservateur du Québec, c'est le parti d'un seul homme. À l'époque, le Parti libéral du Québec, c'est le parti de toute une équipe, littéralement. Donc, vraiment, c'est complètement raté. Mais je donnerai quand même pas la note de E à Éric Duhaime, puisqu'il s'est essayé. Il a juste mal choisi son époque et il a mal choisi son personnage aussi.
Parce que dit aussi hier, le monsieur Duhaime, il veut que les Québécois soient davantage libres chez eux à l'intérieur du Québec, contrairement à Jean Lesage qui parlait d'être maître chez eux à l'intérieur du Canada. Pourtant, là, évidemment, il ne se revendique pas comme souverainiste, veut être à l'intérieur du Canada. Ce matin, sur nos ondes, il était en entrevue avec mon collègue et il a réaffirmé qu'il n'était pas là souverainiste du tout. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ce drôle de parallèle historique-là? Parce que je vais reprendre quand même, juste avant de te passer le bâton, Julia, pour le parallèle avec Jean Lesage et la nationalisation de l'électricité, de notre hydroélectricité, pour rappeler que Libre chez nous, là, son slogan va être affiché sur un VUS qui n'est pas du tout électrique aussi, j'en profite pour le dire. Julia, tu penses quoi de tout ça?
Ben, moi, je donne allègrement la note de E à Éric Duhaime. Je comprends pas ce qu'il a essayé de faire. En fait, oui, je comprends un peu. Je pense que c'est vraiment une tentative d'inventer à son parti une genre de tradition, une substance, une généalogie politique qu'il n'a pas et que la plupart des autres partis ont. Et c'est à peu près le propre des nouveaux partis. Ils n'ont pas vraiment des racines profondes et ils peuvent décider de jouer sur l'idée de la nouveauté ou bien de s'inventer des racines de toutes pièces. C'est visiblement ce que Duhaime a essayé de faire et assez mal. Mais malheureusement, il suffit pas d'invoquer nos très, très grands premiers ministres pour que soudainement, ils gagnent en légitimité, en crédibilité. Je vois pas Duhaime d'un autre œil ce matin. Puis c'est vrai qu'on a parlé il y a quelques semaines de Lévesque et de la possibilité de s'approprier son héritage, peu importe le parti, peu importe la tradition politique. Mais Rémi a tout à fait raison de le rappeler. Quand on regarde ce que Lesage a fait, c'est évidemment la nationalisation de l'hydroélectricité, c'est aussi le régime des rentes, c'est les allocations familiales. Donc, très forte dépense gouvernementale, très fort interventionnisme étatique, et c'est comme l'exemple parfait de l'État-providence, tout ce que Duhaime déteste. Donc, moi, je pense que, ouais, effectivement, il n'a pas bien écouté pendant ses cours d'histoire, et ouais, je serais curieuse de voir qui pourrait comparer à un Lapalme ou un Gérin-Lajoie dans son équipe. Certainement pas les actrices qu'il recrute dans ses rangs.
Ouais, parce que là, ça va rester le gros point d'interrogation là pour le reste de sa campagne jusqu'à l'automne, savoir de qui il va s'entourer. Déjà à date, le peu de candidats qu'on connaît, il y en a certains qui sont, disons, là, sous le sur la marmite, parce que déjà, il y en a qui ont affirmé là, des positions par le passé anti-avortement, entre autres. Donc, c'est certain que, même si... Faut être honnête, M. Duhaime rappelle que lui va rester pro-choix, peu importe, et que son parti va l'être aussi. Déjà, le peu de candidats qu'il y a ne suscite peut-être pas la sympathie autour. Il va falloir voir là, de quel Paul Gérin-Lajoie et de quel René Lévesque il va s'entourer dans son équipe pour le reste de la campagne. Une autre question, un autre sujet que je trouve si important puis duquel on n'aurait pas assez, je pense, d'une heure pour discuter, mais je veux quand même revenir là-dessus. Un document qui a été publié il y a deux semaines par l'Institut de Reuters pour l'étude du journaliste de l'Université d'Oxford en Angleterre, qui sondait le niveau d'intérêt des membres de certains pays pour l'information environnementale, plus particulièrement l'information qui cible les changements climatiques. Et sur une des cinquantaines de pays notés, le Canada se classe dans les plus bas. On se trouve au 31e rang sur 46 pays. C'est seulement 39% de la population qui se dit intéressée par les informations qui concernent les changements climatiques. Julia, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est pas complètement déprimant de voir ce chiffre-là? Et c'est peut-être justement pour ça que ce chiffre-là est aussi bas, parce que les nouvelles sont aussi déprimantes concernant les changements climatiques?
Oui, c'est sûr que ça compte beaucoup. C'est dur de ne pas être déprimé quand on parle d'environnement. On n'a pas souvent des bonnes nouvelles. Et ce que l'étude nous dit, et qui, pour moi, est sûrement le nerf de la guerre pour la cause environnementale, c'est que tous les pays ne sont pas affectés également par les changements climatiques. Donc, tous les pays ne se sentent pas également concernés par cet enjeu-là, pourtant très grave. Au Canada, au Québec, par exemple, on n'a pas eu de grands bouleversements climatiques. Donc, on sent moins l'urgence. Souvent, on va entendre parler des changements climatiques comme d'une éventualité. On parle de préparer l'avenir, alors que pour d'autres pays, c'est tout simplement un quotidien. Il y a des inondations, des sécheresses immenses, des morts. Dans certains pays, il y a des morts liées au changement climatique, et dans d'autres, comme au Canada, on tente plutôt de prendre une posture où on se prépare. Donc, ce qui est difficile quand on est Canadien, Québécois, c'est que quand on s'informe, tout comme quand on décide de plus acheter des produits avec de l'huile de palme, de plus manger de viande, de réduire notre consommation en général, c'est que c'est très coûteux, c'est-à-dire que ça nous demande beaucoup d'efforts et qu'on n'en voit pas les effets directement parce qu'on n'est pas les plus affectés. Donc, on s'informe, ça nous angoisse, ça nous déprime. Quand on prend action, on ne voit pas les effets directement. Donc, pour nous, c'est peut-être un peu plus compliqué d'être investi, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en tant que pays, on est vraiment dans les plus polluants au monde et les moins affectés par les changements climatiques au monde, ben on a un devoir d'action qui est immense.
Comment on peut faire, Rémi, pour intéresser les gens? C'est une grosse question que je te pose, là, mais comment on peut faire pour intéresser les gens aux questions climatiques comme ça sans justement rendre tout le monde climato-anxieux? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Je pense qu'il faut redéfinir... Déjà, moi, je suis très pessimiste par rapport à la nature humaine. Moi, je pense qu'on va se mettre à capoter quand on va avoir de l'eau sous les genoux, pas avant. Je veux dire, durant la COVID, on a vu les gens se précipiter vers le papier de toilette quand ils ont eu des bonnes raisons de croire que les chaînes d'approvisionnement allaient être bousculées. Hein? Mais avant ça, ils n'avaient pas pensé à avoir des surplus de papier de toilette. Mais ça va être la même affaire avec l'environnement. On se mettra jamais à capoter avant d'avoir de l'eau sous les genoux. C'est la nature humaine. Donc, il faut redéfinir ce qu'on appelle urgence climatique. Puis il faut aussi, je pense, arrêter de penser qu'on va un jour être solidaires tous les pays les uns envers les autres. Ça arrivera pas à ce moment-là. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Même sous le nazisme, Hitler avait des alliés. OK? Donc, l'urgence climatique, j'y crois. Moi, je crois aux les scientifiques, mais un projet réaliste, ça se fait à l'intérieur des pays. Par exemple, au Québec, je pense qu'on peut devenir un leader dans la lutte au changement climatique. On peut réaliser des projets, on peut inspirer d'autres États dans le monde. Mais est-ce qu'on peut faire ça à l'intérieur du Canada? C'est une grande question. Est-ce que le Canada, qui est un État, comme vient de le dire Julia, extrêmement pollueur, qui exploite le pétrole sale de l'Alberta, qui va le faire encore pendant tout le siècle qu'on est en train de traverser, est-ce que le Québec peut véritablement s'émanciper comme ça et devenir un État vert? Non. Donc, il y a peut-être des solutions, comme l'indépendance du Québec, qui existent pour véritablement devenir un leader à l'échelle internationale. Il faut abandonner l'idée qu'un jour, on va tous être solidaires les uns envers les autres. Ce n'est jamais arrivé, ce n'est pas dans la nature humaine. C'est pessimiste, je le sais, mais c'est réaliste aussi.
Non, je crois que ta position, oui, est pessimiste, oui, réaliste aussi là-dessus. C'est vrai que de même face à un ennemi commun, disons, le potentiel de rassemblement est limité. Et pour ça, je pense qu'il faudrait aussi être capable, à l'intérieur des pays, comme le Canada, par exemple, être capable de s'entendre sur les changements climatiques. Tout à l'heure, je recevais Tasha Carradine, qui est la co-directrice de campagne de Jean Charest, hein, à la course au leadership du Parti conservateur du Canada. Et je l'ai interrogé à savoir, dernière fois, au sein du Parti conservateur du Canada, en 2021, en mars 2021, ils n'ont pas été capables de faire passer une motion pour reconnaître l'existence des changements climatiques. C'est grave, c'est quelque chose. Elle me garantit que si M. Charest devient le chef du Parti conservateur du Canada, qu'il saura utiliser ses pouvoirs de persuasion pour être capable de rassembler le Parti conservateur. Mais là, moi, ce qui transparaît, c'est que on n'est même pas capable de s'entendre, d'avoir tout le monde du même côté pour reconnaître que ça existe, les changements climatiques. Et là, je parle du Canada. Si on regarde les États-Unis, on va pas se lancer à regarder les États-Unis. Il y a une majorité des gens. D'ailleurs, les États-Unis arrivent tout bon dernier, la nation qui s'intéresse le moins aux informations qui traitent les infos de changement climatique selon l'étude qu'on a nommée en début de sujet. Donc, je suis bien pessimiste moi aussi par rapport à tout ça. Mais peut-être que le Québec peut devenir un leader. Peut-être qu'au Parti conservateur, ils vont s'entendre et savoir que les changements climatiques existent. Peut-être. C'est des questions qui vont rester en suspens. Chose certaine, on n'a pas fini d'en parler. Merci à vous deux, Julia, Rémi. On se reparle demain.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877, cube radio.
On apprenait ce matin, entre autres du côté de Radio-Canada, qu'il y a plus d'une école sur deux en ce moment au Québec qui est cotée D ou E. D ou E, dans le fond, c'est la cote qui est donnée justement pour l'état de l'école. Et ça signifie, comme dans un bulletin scolaire, si vous en souvenez, mauvais ou très mauvais état. Et quand je dis plus d'une école sur deux, c'est 53 % des écoles du Québec qui obtiennent ces cotes-là. Pourtant, la CAQ avait changé ses cibles, les avait même abaissées pour être capable d'atteindre la moitié, c'était 50 % l'objectif. C'était de passer de 85 % à 50 % l'objectif d'avoir des écoles en état acceptable. Et donc, on n'atteint même pas cet objectif de 50 %-là. Pour en parler avec nous, Kathleen Legault, qui est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, bonjour.
Bonjour à vous.
Tout d'abord, là, êtes-vous surprise de voir que le gouvernement rate la cible? Je le dis pour les auditeurs, la grande majorité des écoles, entre autres, qui sont vétus comme ça, qui ont des notes de D ou E, se trouvent justement sous votre juridiction dans la grande région de Montréal.
Ah oui, puis à Montréal, on est même à 65 % de vétusté. Donc, c'est encore pire que le reste du Québec. Donc oui, c'est très préoccupant. L'état des écoles de Montréal est déplorable.
Déplorable, on s'entend, mais qu'est-ce qui... Vous, ça vous surprend pas du tout, là, on voit les écoles, on sait, ça fait longtemps, il me semble, qu'on parle d'écoles vétus, qu'on parle, entre autres, mais de problèmes. Dans le dernier article, justement, je le citais tout à l'heure, on parle de problèmes de fenêtres, de plomberie, de façade. Il y a même des infestations de souris, dans certains cas, des excréments, de l'urine, qu'on trouve, c'est absolument dégoûtant à entendre. Et les fenêtres, surtout, là, tout ce qui est de voir à l'intérieur, mais de la lumière, hein, de donner un environnement adéquat aux élèves. C'est quoi les impacts d'un environnement comme ça qui est inadéquat dans l'apprentissage d'un élève, d'un étudiant, d'un enfant?
Oui, puis vous avez nommé certains des problèmes, mais il y en a bien d'autres, là. Pas de chauffage en certaines sections l'hiver ou des locaux surchauffés. En fait, tout ce qui nuit au bien-être, puis ultimement à la réussite des élèves. Donc ça nous préoccupe. Puis, sincèrement, là, chaque jeune a le droit à une belle école, lumineuse, ventilée. Puis actuellement, on se questionne là, sur comment on va faire pour faire l'école avec la pénurie de personnel, puis on cherche à valoriser le personnel. Peut-on avoir de belles écoles pour justement avoir des milieux de travail sains, sécuritaires, puis que ça soit motivant à rentrer au travail le matin? Donc, ça touche autant le personnel que les élèves, la situation actuelle.
Oui, parce que comment vous placeriez dans votre liste, disons, des priorités, parce que le système de l'éducation coule de partout. On sait qu'il y a des problèmes justement de rétention de personnel. On a modifié le salaire de certains enseignants, mais il y a encore les conditions qui sont là. On a de la difficulté à recruter des enseignants. Et là, on parle d'écoles qui ont de la difficulté justement simplement à exister sans couler, fuiter d'un peu partout, être aéré comme il faut. Il y a eu, pendant la pandémie, l'aération dans les classes qui a été défaillante. Ça a été une saga qui a duré au-dessus d'un an et finalement, il n'y a pas eu vraiment les résultats escomptés de ce côté-là. Heureusement, la pandémie s'est calmée un tout petit peu. Dans la longue liste des priorités de ce que vous avez besoin dans les écoles, où se classent les locaux comme ça, puis la rénovation des écoles?
La première priorité, ça serait de mettre plus de ressources dans les zones du Québec qui sont plus touchées par la vétusté.
Donc Montréal, donc la vôtre.
Montréal, puis aussi Laval, hein, des lieux où il y a des écoles plus anciennes, des écoles centenaires. Donc c'est normal que ces écoles-là ont besoin d'être remplacées. Pendant des années, on a sous-financé l'entretien des écoles. C'est comme votre maison, hein, si vous faites pas le toit puis que ça coule, puis etc. Donc quand vous décidez de vous en occuper, ça coûte plus cher. Donc les écoles ont été quelque part abandonnées pendant plusieurs décennies. On les a pas entretenues adéquatement et là, on arrive à ce constat-là. Puis le problème, c'est que ça prend tellement de temps entre le moment où on voit le problème puis le moment où il est réglé. Ça peut prendre jusqu'à 7 ans. Quand le centre de services scolaires présente un projet en disant « cette école-là doit être rénovée, agrandie », imaginez 7 ans. Donc, la première chose, réduire les délais, réduire la bureaucratie, puis en faire une urgence. On sent pas l'urgence de ce gouvernement par rapport à plusieurs dossiers. Puis c'est comme si il n'y a pas de plan précis. Vous savez, on investit plus. Et ça, on doit le souligner, là. Il y a eu un réinvestissement et il y a des projets qui ont vu le jour. Et ça, c'est très positif.
Oui.
Chaque école qui ouvre, qu'on inaugure, regardez, c'est un moment heureux pour peu importe où cette école-là, sauf que ce soit un agrandissement ou puis un gymnase moderne. Imaginez qu'encore aujourd'hui, dans certaines écoles, on est encore avec des salles, avec des colonnes dans le milieu pour les activités sportives.
Il y a des incohérences, là, ça je vous l'accorde, puis vous le dites, là, en ce moment, on est rendu, là, dans le plan québécois des infrastructures de 2018 à 2028, puis dans le plan, là, 2022-2032, là, c'est 13 milliards de dollars, 13 milliards qui est consenti, là, spécifiquement au maintien ou à la reconstruction des bâtiments qui sont dits vétus, mais on a une espèce de logique, je veux dire, en bon québécois, puis c'est des termes qui ont été repris par Jean-Pascal Foucault, là, qui est un expert, entre autres, dans la gestion des actifs physiques, lui qui parle d'une logique de patchage. En bon français, on met des patchs, on se contente de réparer un trou dans un mur, par exemple, mais l'école n'est pas rénovée. Est-ce que c'est pas une obligation au moment où on peut pas réparer toutes les écoles en même temps, où on enverrait les élèves, où on les déplacerait? C'est quoi la solution à ce moment-là? Par exemple, on veut commencer à rénover des écoles de fond en comble, on en rénove plusieurs. Qu'est-ce qui arrive? On déplace les élèves? On les envoie dans une autre école, dans un autre endroit? C'est quoi les solutions concrètes qu'on peut voir là, pour rénover les écoles rapidement sans avoir à garnoter, encore une fois en bon français, des étudiants un peu partout?
En fait, si on fait du patchage, des fois, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Parfois, le centre de service scolaire doit présenter son projet pendant 2 ou 3 ans avant qu'il soit accepté. Donc ça, c'est un premier problème. C'est parce que les fonds, même s'ils sont plus généreux, sont toujours insuffisants. Ça, c'est le premier problème. Comment on fait avec les élèves? Ça dépend du projet. Parfois, on peut le faire en phase, ce qui fait qu'on peut déplacer les élèves dans certains secteurs de l'école pour éviter de sortir les élèves de leur quartier. Parfois, on les relocalise dans une école secondaire à proximité où il y a de l'espace. Parfois, on met des unités préfabriquées. Chaque projet est différent. Donc, on vise toujours le bien-être de l'élève. On vise aussi à travailler avec les parents pour regarder les différentes solutions. Puis, chaque cas est unique. Mais oui, effectivement, il y a un enjeu parfois de relocalisation des élèves pendant des travaux. Mais quand on rêve à notre belle école qu'on va réintégrer, on espère que ça prendra pas 7 ans. Ça aussi, c'est un problème. Mais qu'on va réintégrer dans 2, 3, 4 ans, ben ça vaut peut-être la peine de faire certains sacrifices.
Ouais, ça vaut peut-être la peine de faire certains sacrifices, vous le dites, puis les écoles, la plupart, vous parlez d'écoles centenaires à Montréal, ça oui, il y en a, hein. Mais il y a aussi beaucoup d'écoles, la grande majorité des infrastructures publiques du Québec a été construite dans les années 60, 70, et là, c'est beaucoup de ces infrastructures-là qui, tout d'un coup, on se rend compte que leur vie utile est de 25 ans, 30 ans, 35, 40, Et là, ben, comme tout a été construit en même temps, tout est dû pour être fait. Vraiment, on a tout un problème sur les bras. Quoi qu'il en soit, en espérant que cet été, pendant que, justement, les élèves sont chez eux, sont en vacances, sont au camp de jour, c'est peut-être le bon moment pour accélérer, faire une espèce de blitz, si on veut, de marathon de reconstruction d'école. Bref, j'en ai des idées comme ça en l'air, mais vous l'avez dit, la bureaucratie, c'est loin d'être aussi rapide. Madame Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci à vous.
Au revoir. C'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui. Beaucoup d'actualités. Je vous réinvite à aller réécouter notre entrevue avec Tasha Carradine un peu plus tôt à l'émission si vous vouliez entendre des nouvelles de la chefferie conservatrice au Parti conservateur du Canada. C'était fort intéressant. Je remercie toute l'équipe qui est avec moi. Jean-François Roy à la console. On a également Florence Lamoureux qui est derrière la recherche. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain, 9h.
Cube Radio.